les enfants de Cronos.
Nous vous avons parlé la dernière fois de l'histoire antique du Val du Roanne, cette micro-région de 20 km², située à 20 km au nord-est de Crépy-en-Valois. Durant cette période de 3 siècles, capitale pour notre région, un dense réseau de villas et de hameaux est progressivement bâti par les Gaulois, devenus gallo-romains, pour exploiter les richesses agricoles de la région. Parti de Verberie peu après la conquête romaine, ce mouvement de construction s'étend progressivement à tous les milieux et transforme la région en grenier à blé de l'Empire. Une importante voie traverse le Val du Roanne du nord au sud, profitant d'un gué sur l'Oise et mettant en relation la Gaule du nord et la Gaule du sud. Toute notre contrée va souffrir ensuite de graves incursions germaniques, des Francs et des Alamans, dans la deuxième moitié du IIIe siècle. Contrairement à ce qu'il s'est passé lors des précédentes grandes migrations, la civilisation bien organisée et les riches campagnes antiques ne se remettront jamais vraiment des pillages et du déplacement des flux commerciaux. Dans le Val du Roanne, la plupart des sites sont abandonnés au IIIe siècle, essentiellement ceux situés sur les plateaux, tandis que certains sites de vallons, moins de 10, sont encore utilisés au Bas-Empire et au Haut Moyen-Âge, préfigurant les hameaux actuels, Yvillers, Roberval, Bacquel, Noël-Saint-Rémy, Noël-Saint-Martin et La Plaine. Les agglomérations secondaires sont souvent abandonnées, parfois méthodiquement démantelées par leurs habitants. Les empereurs, peut-être Dioclétien, ordonnent aux villes administratives, comme Senlis, Beauvais ou Noyon, d'entourer leur centre de commandement, leur capitole, avec de puissants remparts et des fossés profonds, détruisant méthodiquement tous les quartiers situés à l'extérieur. Ces périphéries, autrefois urbanisées, se transforment alors souvent en zones agricoles. Des Lettes, peuples germaniques vaincus par les Romains, sont ensuite obligés par le pouvoir impérial de remettre en culture les terres abandonnées. Un préfet militaire des Lettes tient alors garnison à Senlis pour les surveiller. Les arènes de Senlis sont abandonnées après avoir servi un temps de Castellum, de Fortin. Le temple d'Alate, situé aujourd'hui en forêt, près d'Ognon, est détruit. À partir de 392, le christianisme devient religion d'État. Rieul va alors christianiser la région. On connaît le miracle des grenouilles de Rully que le saint fait taire d'un geste pendant son prêche. Rieul devient le premier évêque de Senlis. Son diocèse reprend d'ailleurs plus ou moins les limites de la civitas des Sulbanectes. Une église octogonale ou baptistère est bâtie dans le castrum de Senlis. Elle donnera naissance à la cathédrale. Après une brève période de retour de la paix, d'autres grandes migrations germaniques impacteront tout l'Empire romain, surtout en 406. Les Huns profitent de la faiblesse du pouvoir central pour attaquer à leur tour en 451. Ces dérèglements conduisent à la disparition du dernier empereur romain, Romulus Augustule, en 476. Dans notre région, résistant encore et toujours à l'envahisseur, et devant l'impuissance de Rome, le général gallo-romain Aegidius proclame l'indépendance de la région située entre la Loire et la Somme, en 461. Son fils, Siagrius, surnommé roi des Romains, lui succède en 464. Il sera finalement vaincu par Clovis en 486 à Soissons. C'est la fin de la civilisation romaine et le début du Haut Moyen-Âge. Les nouveaux maîtres du pays, les Francs, vont se fondre dans les institutions gallo-romaines. Ils s'appuient sur les évêques pour gouverner et récupèrent les terres du fisc romain, telle la vaste ferme palais de Verberie. On ne sait presque plus rien de l'histoire rurale régionale à l'époque mérovingienne. Les archéologues nous apprennent cependant que les villages désertent les plateaux et des hameaux composés de petites maisons en bois et torchis se dispersent dans les vallons et près des grandes routes. La forêt, défrichée au moins depuis l'époque gauloise, regagne du terrain et fait bientôt l'objet d'une certaine gestion. L'agriculture recule partout, de même que l'artisanat. Parallèlement, des églises rurales commencent à être bâties au VIe et VIIe siècle, dans les vicus, par exemple à Pompoint, ou dans les villas plus isolées, et de nouveaux cimetières sont créés autour. Clovis vient à Senlis vers 500 et fait peut-être surélever les remparts pour mieux protéger le palais antique qu'il aménage en résidence royale. Après la disparition de Clovis, le royaume est fréquemment morcelé, mais la vallée de l'Oise reste traditionnellement rattachée à la couronne. Elle est placée au centre de la vie politique et militaire de l'époque. Les rois séjournent fréquemment à Compiègne, à Choisy-au-Bac, à Noyon, à Verberie ou en forêt de Cuise, de Compiègne. C'est peut-être pourquoi une importante bataille oppose les Austrasiens et les Neustriens, deux composantes des royaumes francs, près de Pont-Sainte-Maxence en 674. Les rois se déplacent beaucoup et plusieurs villas ou fermes palais royaux sont connues dans la région, comme Venette, Cuise ou Verberie. Ces villas permettent à la cour royale d'être reçue au cours de ces incessants déplacements. Elles sont situées dans les régions les plus riches en élevage, en terres cultivables et en forêts giboyeuses. Le Val du Roanne est une de ces régions, et c'est pourquoi une villa-palais, qu'il faut davantage imaginer comme une grosse ferme que comme un palace, s'est implantée à sa périphérie à Verberie. Tout le terroir bénéficie de cette activité qui marque son paysage pour de nombreux siècles. Les choses s'améliorent ensuite progressivement à partir du milieu du 7e siècle. L'ordre carolingien rétablit la prospérité, mais avec un glissement du pouvoir vers l'est de l'Empire. Dans ce cadre général, les découvertes archéologiques ou historiques et les hypothèses conduisent à tenter de restituer l'aménagement et le peuplement du Val du Roanne au Haut Moyen-Âge. Le terroir bénéficie d'un certain nombre d'atouts. Ceux-ci vont lui assurer un rapide essor économique et démographique, mais aussi un profond bouleversement de l'organisation du peuplement, qui lui donnera la physionomie qui ne changera plus guère jusqu'à nos jours. Le premier atout est la richesse naturelle du terroir. Des plateaux fertiles, lorsqu'il y a présence d'une grande épaisseur de limon. Des vallons humides, où l'eau est omniprésente, mais assez facilement maîtrisable. Une rivière navigable, Fluvium Isaram, l'Oise, qui permet les communications et les échanges. Une forêt, qui fournit de nombreux produits indispensables. Du calcaire, de l'argile, des sables ferrugineux, facilement accessibles, qui fournissent des matériaux et bien d'autres richesses encore. Le deuxième atout est certainement la très longue tradition d'agriculture intensive qui caractérise le terroir et qui est liée à la richesse naturelle dont on vient de parler. Un maillage serré de villas gallo-romaines, et avant elles, de fermes indigènes gauloises, exploitait la quasi-totalité du terroir, de façon intensive, là où la couverture de limon donnait une grande fertilité au sol, et de façon plus extensive dans les fonds de vallons et de vallées et sur les plateaux calcaires. Cette richesse agricole du terroir a très certainement joué un grand rôle dans l'implantation d'un fisc à Verberie et à Pont-Sainte-Maxence. Quelques villas ont même pu être encore exploitées, voire habitées, au Haut Moyen-Âge. Ce fisc de Verberie est le troisième atout dont bénéficie la région sous les Carolingiens. Le Val du Roanne a gravité pendant deux siècles, entre 739 et 957 d'après les textes, autour du palais royal de Verberie et de la cour qui y séjournait épisodiquement. Simple villa publica, ferme appartenant à l'État, depuis une époque indéterminée, peut-être dès l'Antiquité, Verberie, accède rapidement au rang de Palatium Regium de Palais Royal sous Charles Martel. L'apogée du palais de Verberie commence avec les travaux ordonnés par Charlemagne lui-même en 808. On dit qu'il est né à Verberie et se poursuit sous le règne de Charles le Chauve jusqu'en 865, date à laquelle ce dernier choisit de privilégier plutôt sa résidence compiégnoise. Cette apogée correspond d'ailleurs à une amélioration climatique qui caractérise le Haut Moyen-Âge après le 7e siècle. La présence d'axes routiers représente un quatrième atout pour le terroir. La voie gauloise et antique Meaux-Amiens, future voie flandreuse, véritable axe national, traverse le terroir dans le sens nord-sud et franchit l'Oise au moyen d'un gué. Un chemin moins praticable longe l'Oise dans la plaine inondable, reliant les fisques royaux de Verberie et de Pont-Sainte-Maxence. Grâce à ce contexte favorable, se développe un habitat assez dense et diversifié dans les vallées, toujours très proche de la voie antique. La plaine inondable de la vallée de l'Oise est bâtie à Saint-Corneille-les-Verberies, villa du palais royal de Verberie, puis à 2000 mètres en aval à la plaine Nogrenier. Dans les deux cas, il n'existe plus aujourd'hui sur le site que des bâtiments isolés, châteaux, moulins, ports. Les vestiges du haut Moyen-Âge trouvés près de la villa gallo-romaine de la plaine font songer à l'existence d'une petite agglomération artisanale et commerçante établie près du gué permettant le franchissement de l'Oise. Elle est peut-être liée également à une campagne de défrichement aux alentours. Cette agglomération n'est plus évoquée aujourd'hui que par trois maisons anciennes éparpillées autour du site primitif. Un peu plus haut, sur les premières pentes, deux chefs-lieux de paroisse s'implantent, Saint-Germain-les-Verberies à 800 mètres de Saint-Corneille et Ruys, 1000 mètres en aval. Au-delà, Danlu, future morue, avec une simple chapelle, se dresse à 1500 mètres en aval. De ces trois sites, seul Ruys a donné naissance à un village encore important pendant le plein Moyen-Âge. Dans les différents vallons, de l'aval vers l'amont, se dressent plusieurs hameaux. Bacquel, Robertval à 700 mètres, Fosse à 600 mètres, Noël-Saint-Rémy à 600 mètres, et enfin Noël-Saint-Martin, isolé à 1500 mètres. Parmi ces hameaux, qui ont tous prospéré jusqu'à nos jours, seul Robertval est sans doute une création du haut Moyen-Âge, peut-être liée au mouvement de défrichement qui touche la région au 8e siècle. En revanche, les plateaux sont sévèrement abandonnés. Seule une couronne de terre située à moins de 3000 mètres du palais royal de Verberie connaît encore une certaine activité agricole. Mais les zones situées à l'extérieur de cet espace, assez réduit, se sont progressivement boisées, formant la forêt d'Alatte. Celle-ci avançait donc 2000 mètres plus loin qu'aujourd'hui, en direction de l'est, sans toutefois rejoindre la forêt de Compiègne, comme les historiens romantiques du XIXe siècle le supposaient. Encore un mythe qui s'effondre. La période qui part de la grave crise du IIIe siècle et qui court jusqu'à l'époque de Charlemagne voit donc un bouleversement profond de nos sociétés et donc de notre paysage rural, sous l'impulsion de nouveaux venus, les Germains. L'espace agricole se réduit, le christianisme se répand, des églises sont construites, les rois privilégient leurs palais de la vallée de l'Oise et de Senlis, et les forêts giboyeuses qui ont remplacé les terres cultivées depuis longtemps. L'époque de Charlemagne représente toutefois une véritable renaissance, et des hameaux sont créés.